Johan Minkoff. Bonjour.
Bonjour.
Johan Minkoff, vous êtes guitariste, chanteur, multi-instrumentiste. Votre musique, on peut le dire, est blues, teintée d'énormément d'influences. Vous avez l'album Black and White, qui est sorti en 2016, et Living Home, qui est sorti en 2018, avec le beatboxer Chris Nolly, et un album qui est en préparation, me semble-t-il, pour 2024, c'est bien ça ?
Tout à fait. Ouais, je suis en train de travailler sur un nouveau disque. Il y a eu un autre disque qui est un peu passé inaperçu, que j'avais sorti au moment du confinement, qui s'appelle Now, que j'avais sorti uniquement sur Bandcamp, mais qui sera disponible un peu plus largement d'ici un mois ou deux. Et donc je travaille sur un nouvel album qui commence à être assez bien avancé, mais la sortie ne sera que pour octobre 2024. D'ici là, il y aura quand même des morceaux, des vidéos et quelques petites choses à se mettre sous la dent, ainsi que des concerts, bien évidemment.
Voilà, je présentais votre musique qui est très blues. Est-ce que vous la définissez avec énormément d'influence, est-ce que vous la définiriez comme ça ?
Ouais, c'est plus simple de résumer comme ça, de mettre blues, parce que pour moi, le blues. Pour moi, chaque culture a son folk et son blues. Et donc je vais piocher dans certains qui s'entrecroisent. Ça peut être, j'aime beaucoup le blues malien à la guitare, mais la façon que j'ai de chanter va s'approcher plus d'un blues américain ou d'un folk anglais, avec aussi d'autres inspirations. Moi, je suis un grand fan de reggae, qui pour moi est une genre de blues jamaïcain, clairement. Voilà, j'ai écouté aussi pas mal de rock, qui est une évolution du blues. Je suis pas très fan de niche, je suis pas très fan d'étiquette, malheureusement, des fois il faut mettre des mots, et puis des fois il faut. Voilà, donc blues, ça permet un peu d'englober tout ça, mais clairement, les puristes ayatollah du blues auront sûrement leur mot à dire, et tant pis pour eux.
Bah, on continue dans les mots. Si vous deviez, malgré tout, vous le dites, si vous deviez définir ce genre musical du blues et ce qui en fait justement sa singularité.
Le blues, je pense que c'est quelque chose qui a trait, pour moi encore une fois, mais ça a trait à l'émotion, à une émotion assez simple. Il y a quelque chose de l'ordre. De l'ordre d'une poésie, mais qui passe à travers la musique. C'est Burning Spear qui parle de ça, le fameux Burning Spear, le chanteur jamaïcain, qui dit la musique est dans le message et le message est dans la musique. Moi, je ressens beaucoup ça dans le blues, et dans d'autres musiques d'ailleurs, mais en tout cas dans les blues que j'aime bien. Et on n'a pas besoin d'avoir des paroles très élaborées pour ressentir quelque chose qui fait dresser les poils. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'arrangements musicaux pour que ça ressorte. Après, pour rentrer dans un terme un petit peu plus technique, on va dire, il y a souvent quelque chose de l'ordre d'un mélange de sentiments où il y a quelque chose d'un peu joyeux et de triste qui se dégage à la fois. Par exemple, des accords majeurs avec quelque chose quand même de triste, alors que la mélodie paraît assez joyeuse, ou l'inverse. Donc, un truc un peu profondément triste, mais avec un rythme entraînant comme on peut avoir sur le reggae. Donc je trouve que c'est cette ambivalence qu'on va retrouver dans les blues.
Les blues, justement, parce que vos influences sont très diverses. Effectivement, quand on écoute votre album ou un concert, on passe aussi bien de la Louisiane à l'Afrique de l'Ouest, on peut le dire, les Caraïbes, l'Angleterre. Comment, justement, de cette multitude et cette diversité, vous en avez fait quelque chose qui résonne de manière tout à fait simple et commune ?
Alors ça, je sais pas, ça n'a pas été vraiment prémédité. Je suis très content que ça résonne de manière simple et commune pour certains. Globalement, je cherche à faire ce que j'aime et ce qui me plaît. Et je pense que, on va dire, quand on fait quelque chose avec le cœur et qu'on essaie de faire quelque chose nous ressemblent. Je suis pas né dans les Caraïbes ni en Louisiane, mais c'est de la musique que j'écoute qui fait partie de mes inspirations depuis longtemps, qui fait du coup quelque part partie de moi d'une certaine manière. Et je raconte par contre des choses personnelles, des choses que je ressens profondément. Je sais pas de ressembler à quelqu'un ou de raconter quelque chose qui n'est pas moi. Qui n'est pas une fiction qui me tient à cœur en tout cas. Et je pense que tout ça devient cohérent quand on fait quelque chose dans lequel on croit avec le cœur et qui nous ressemble, ça finit par apparaître ce qu'on fait. Et puis les inspirations, si tu prends en littérature, tous les auteurs ont lu. Enfin, je pense, hein. Je suis pas écrivain, mais ils ont sûrement lu des centaines et des centaines, voire des milliers de livres, et sûrement dans des genres très variés, du polar à la poésie, au fantastique, à des choses plus documentaires. Et je pense que c'est toutes ces inspirations qui vont participer au style d'un écrivain.
Et musicalement, vous? Justement, quels sont les groupes qui ont participé à la formation musicale qui était la vôtre, étant jeune et puis jeune musicien?
Bah, jeune, c'est-à-dire qu'il y a les choses qu'on choisit et puis il y a les choses qu'on choisit pas. C'est difficile de savoir. En tous les cas, tout a participé. Donc, mon premier CD que j'ai acheté, enfin que mes parents m'ont acheté, mais qui était le mien, c'était Ace of Base. Je sais pas si ça fait partie de mon inspiration, mes inspirations d'aujourd'hui. Après, quand je réécoute aujourd'hui, je trouve pas ça particulièrement mauvais. Je trouve que c'est un genre de reggae suédois. C'est suédois, je crois. Je sais plus trop, avec des bonnes mélodies, pourquoi pas. Assez tôt, je me suis quand même tourné vers des choses que j'aimais, qui n'étaient pas des choses que mes parents m'avaient achetées ou autres. J'ai assez tôt été quand même assez passionné par Bob Marley and the Wailers et Peter Tosh. Et puis après, ça m'a permis de dévier vers le reste, enfin d'autres artistes de reggae jamaïcains notamment, Gladiators et autres. J'étais assez fan de rock, j'ai écouté Rage Against the Machine, qui est toujours pour moi un grand groupe de rock. J'ai été bercé par les Beatles pendant mon enfance avec mon père. Et je me prends encore des claques à écouter leurs albums. Tous les ans, j'ai une phase Beatles où j'écoute que ça pendant quelques semaines. Et je trouve que je me dis que c'est le meilleur groupe du monde. Et puis après, heureusement, je passe quand même à d'autres choses, anciennes ou plus contemporaines. J'ai écouté pas mal de vieux bluesmen, des Robert Johnson, Skip James, qui est une inspiration vraiment fondatrice dans la raison pour laquelle je me suis mis au picking à guitare, où j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il a fait, ainsi que ses continuateurs plus contemporains, Corey Harris ou Alvin Youngblood Hart, qui sont des bluesmen actuels qui utilisent à peu près les mêmes techniques que les musiciens des années 20, avec quand même une meilleure production sonore, mais quelque chose qui est fait avec le cœur, et puis une technique de guitare et une couleur de blues qui me hérisse les poils. Donc voilà, j'ai eu envie de participer un peu à ça à ma manière.
Thank you.
De l'album qui est sorti en 2018, Living Home. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous parler aussi de la collaboration que vous avez avec le beatboxer Chris Nolly?
Ouais, donc Chris Nolly est un beatboxer. On s'est rencontrés à Rennes il y a pas mal de temps maintenant. Et puis notre collaboration a commencé un petit peu par hasard. Il était passé à un concert à moi, on avait buffé un petit peu. Et puis un jour où je devais faire des concerts avec d'autres invités, mais qui venaient d'Afrique du Sud et qui malheureusement n'avaient pas eu leur visa. Je l'avais appelé pour remplacer au pied levé, me disant bon, ce sera assez simple, un beatboxer, c'est plus facile pour lui d'apprendre les parties, puisque c'est du rythme, ce sera plus simple que de prendre un bassiste ou un autre instrumentiste. Et puis on a enchaîné 4 concerts et on s'est très bien entendu humainement, musicalement. Il y avait quelque chose à jouer, et puis on a commencé à tourner tous les deux. Moi, je n'étais pas passionné de tourner tout seul. Et puis, on a fait vraiment notre bout de chemin. On a fait des centaines de concerts, en fait, en France et puis à l'étranger également. Et c'est intéressant, parce que le beatbox lui permet de chanter, de faire une rythmique assez complète, quand même assez pleine. Et on n'est que deux sur scène, ça reste un duo. Moi, j'ai mes percussions au pied toujours, ma guitare et ma voix. Et on arrive à envoyer quelque chose de quand même très dynamique et très, très rempli pour juste deux personnes, sans boucle, sans séquence ni rien. Et puis, je pense que le duo a quelque chose de... Enfin, le solo a quelque chose de très intéressant sur scène qui attire la bienveillance du public. Et le duo... Les duos attirent une certaine sympathie parce que c'est pas un groupe, c'est un duo. Et c'est deux entités très, très différentes. Chris et moi, voilà, physiquement, on se ressemble assez peu. On a quelques points communs stylistiques, capillaires, mais sinon, on se ressemble peu. On est chacun dans nos styles, chacun dans nos inspirations, et on se retrouve sur scène dans cette complicité qui marche pour nous et apparemment pour le public aussi.
Vous vous retrouvez aussi, oui, sur le chant, voilà, le fait de chanter.
Le fait de chanter. Bah, on chante ensemble. Alors, c'est quasiment toujours moi qui chante les parties lead. Ce sont mes chansons, sauf une dans laquelle il a une partie plus solo. Sinon, lui fait des chœurs avec une belle voix de basse-riton, comme il dit, entre basse et baryton. Donc, il est voilà, entre ces passages de rythmique, il peut accompagner la voix, apporter du soutien à ça, ce qui est assez, assez plaisant, et parfois en harmonie, parfois à l'unisson.
Cet album, tous ces morceaux vous ont porté à tourner beaucoup. Et cet album s'intitule « Living Home » et renvoie évidemment aussi au voyage.
Ouais, bah c'est le nom d'un morceau de l'album, surtout, qui s'appelle « Living Home » et qui parle de... qui n'a pas beaucoup de paroles, mais c'est... voilà, c'est quelqu'un, c'est moi, c'est un jeune homme, une jeune femme qui... on ne sait pas trop, en fait, mais c'est ce moment où on va partir et qu'on annonce à ses proches, à ses parents, que c'est le départ. Et dans la vie, il y a beaucoup de départs. On quitte ses parents, on peut quitter ses copains, on peut quitter son amour. C'est pour mieux revenir, souvent, ou pas. Ça dépend. Mais là, en tout cas, sur cette chanson-là, c'est en effet quelque chose qui évoque plus le voyage et la liberté, qui est celle qu'on peut avoir, ou en tout cas fantasmer, quand on part en tournée pour faire de la musique à travers... les routes et le monde.
Est-ce que vous pourriez nous parler justement des différents récits que vous pouvez aborder dans cet album Living Home, à travers les chansons évidemment?
Ouais, c'est pas forcément un album qui a été... C'est un EP et c'est un peu particulier parce que c'était pour présenter vraiment notre duo avec Chris, donc il y avait pas forcément de recherche de cohérence entre les différentes paroles de chansons. Y a un morceau qui est un peu plus politique, il y a un morceau qui est un peu plus poétique, Once I, y a une reprise de Alvin Youngblood Heart, justement, dont je parlais avant, Big Mama's Door, qui est un morceau qu'on avait fait aussi en vidéo, qui avait bien marché. Et puis You Had To, qui est un peu plus sur des thématiques... classique de blues, de l'amour perdu. Mais globalement, tout l'album, à part peut-être un morceau, a quelque chose d'assez dynamique. C'est pas un album très folk, posé. C'est pour présenter quelque chose qui peut se rapprocher du live, où on voulait donner cette dimension rythmique, rythmée et entraînante de la musique qu'on fait tous les deux. Ouais.
La composition des morceaux, est-ce que vous pourriez nous en parler? Est-ce qu'il y a un endroit particulier, où, un moment, une situation qui inspire
Ouais, la composition, souvent, je pars d'une idée de guitare. Je vais être posé dans mon canapé ou n'importe où, et je suis en train de gratouiller quelque chose, et il y a quelque chose qui me plaît, donc que j'ai envie d'enregistrer. Bon, j'ai plein d'idées comme ça que j'ai jamais exploitées, mais parfois ces idées-là, je les exploite et j'en fais quelque chose. J'en fais une chanson, donc le texte vient généralement après la guitare, après même la mélodie de chant. Il y a des exceptions, ça peut arriver que j'ai une idée de texte qui va m'inspirer une chanson, mais souvent c'est la guitare qui vient servir de fondation. Et ensuite le chant arrive naturellement, il vient se poser un peu comme un instrument avant, ce qui est le cas de la voix de toute façon, et après ça je vois, ou on voit d'ailleurs, je bosse pas mal avec Loïs, qui est mon ami et mixeur et ingé son et partenaire dans un autre groupe qu'on a, Songo, un collègue. Et on va bosser ensemble sur les arrangements. S'il y a besoin de plus de rythmique, de plus d'éléments de production pour que le morceau soit plus. Bon, pour l'amener à là où on a envie de l'amener en termes auditifs.
Vous parliez du fait que vous avez aussi des groupes, vous jouez en groupe. Qu'est-ce qui a fait que, tout simplement, vous ayez eu envie de partir sur un projet plus solo, en l'occurrence duo aussi?
J'avais envie de rien devoir à personne, d'attendre personne pour pouvoir faire de la musique. J'avais beaucoup de chansons qui étaient sorties de ma tête et de mon cœur et de mon esprit, et j'avais envie, besoin de les chanter. Peut-être des choses à prouver à moi, d'autres, je sais pas. En tout cas, voilà, j'avais une inspiration et une envie débordante qui peut pas attendre l'inertie de groupe. Les groupes permettent souvent d'aller plus loin, en tout cas de faire de plus grandes choses, se retrouver sur des plus grandes scènes, aller jouer plus loin. Puis il y a une énergie collective qui fait que c'est qu'on fait des choses plus grandes souvent. Le fait de travailler tout seul permet, pour moi en tout cas, une régularité, et puis permet de ne pas se frustrer dans la création. Travailler avec des gens, c'est souvent synonyme de compromis artistique et humain et plein de choses. Il y a vraiment des parties très des bienfaits du travail en collectif, mais il y a des bienfaits du travail seul, qui d'ailleurs, je pense que mon projet en solo me permet de mieux travailler en groupe par ailleurs, puisque c'est un exutoire aussi à toutes mes inspirations. Et je pense que tous les artistes qui se sentent parfois un peu frustrés en groupe, je les invite à faire quelque chose en solo, pas forcément très ambitieux, si c'est pour faire deux, trois concerts dans les cafés ou dans les crèches ou peu importe. C'est pas ça la question, c'est juste de faire ses chansons, de faire son exutoire. Et ça permet après d'encore mieux travailler avec les autres.
Vous en avez parlé un petit peu en début d'interview, mais quelles sont les prochaines dates et aussi prochaines sorties d'albums qui sont en prévision?
Alors, je ne sais pas quand va être diffusée l'interview, donc je sais pas. Mais en tout cas, donc je sors un nouveau single qui va vraiment donner un peu la tournure du nouveau disque, même s'il y aura encore plein d'inspirations différentes. Le vendredi 1er décembre, le morceau s'appelle Lead It By, et il va être accompagné d'une vidéo solo, le morceau studio étant un peu plus arrangé avec. Il y a un bassiste sud-africain avec qui je travaille pas mal quand je vais là-bas. Il s'appelle Wakile. Il y a le batteur de mon groupe Songo aussi qui joue dessus. Donc ça sort le 1er décembre. Ensuite, je joue ce même jour d'ailleurs à Nantes, dans un lieu qui s'appelle Polaris. Et ensuite, je vais commencer à travailler un petit peu sur le répertoire de mes nouvelles chansons en live. Donc on va aller bosser à l'Étang Moderne à Rochefort-en-Terre. Je jouerai ensuite le 5 janvier à Saint-Brieuc à The Stamp, qui est un nouveau lieu en plein centre-ville. Et puis après, bon, c'est quand même un peu la trêve hivernale. Je vois que j'ai un festival pas loin à Minic-sur-Rance, un festival de guitare errance le 22 mars. Et puis après, la tournée de printemps est en train de se caler, donc n'hésitez pas à suivre tout cela sur les réseaux et autres internets.
Juste quelques mots sur, est-ce que vous avez quelques pistes sur à quoi ressemblera le prochain album?
Ouais, le prochain album sera un petit peu plus orchestral, on va dire, que le tout premier, en tout cas, que Black and White Blues, qui était quand même plus folk, un peu plus coin du feu. Il y aura un peu plus de morceaux avec de la batterie, de la basse. On s'est quand même fait un peu plus plaisir sur les arrangements. Je pense que l'inspiration reggae va ressortir un peu plus. Ça commençait à me manquer. Ça reste quand même pour les quelques les quelques chanceux, non mais les partenaires qui ont pu entendre les débuts d'avancer sur l'album, voilà, trouve que ça reste du Johann Minkoff. Donc je pense que si vous aimez bien ce que je fais, vous devriez pas être déçu, mais voilà, il y a quelque chose d'un petit peu plus produit dans l'ensemble. Ça reste toujours mes chansons.
Merci à vous, Johan
Merci.
Minkoff, pour donc cet entretien ici même à Kuguin. All of them are leaded by the ego, by the ego.
Look at what shine, but you ain't do nothing. You live online.